comprendre l'actualité de l'économie locale avec CNews.press.
Bonjour à tous, bonjour Pierre.
Bonjour Jean-Marc.
Bon, envie d'entreprendre, saison 4, épisode 3, c'est maintenant. Et voilà, nous arrivons déjà à la fin de l'année 2016. Sur les écrans de télévision, nous avons droit aux habituels zapping, parfois drôles, parfois beaucoup moins drôles. On aurait pu, nous aussi, vous proposer le zapping de nos ratés ou cafouillages. Il y aurait de quoi faire. Mais je crois qu'on a mieux à faire, non? Nous avons repris cette émission il y a 3 mois maintenant. Et on peut vous le dire, parcourir le Vaucluse économique avec nos enregistreurs, nos caméras et nos appareils photos, c'est croiser de belles entreprises, c'est rencontrer de vrais entrepreneurs, fiers de leurs activités, et pour nous, c'est prendre beaucoup de plaisir à raconter ces réussites. Et si on veut tous forcément que des choses s'améliorent, que des modes de fonctionnement changent, n'est-ce pas monsieur RSI? Il faut quand même réaliser et reconnaître que dans le Vaucluse, comme ailleurs dans notre pays, nous avons beaucoup de pépites entrepreneuriales et surtout beaucoup d'atouts pour réussir. Il est vrai que tout n'est jamais linéaire. Dans notre région, la fréquentation touristique a baissé cet été, alors que la vigne devrait donner encore un très bon millésime en 2016. Mais si nous faisions comme les fruits et les légumes de notre agriculture, sachons profiter des richesses de notre terroir, adaptons-nous aux conditions, qu'elles soient conjoncturelles, comme un orage, ou structurelles, comme le réchauffement climatique. La localisation, l'ensoleillement, la pluie ou la sécheresse et beaucoup d'autres paramètres changent d'une saison sur l'autre, d'une année sur l'autre. Et pourtant, chaque récolte et chaque vendange apporte des résultats et toujours de belles satisfactions. Il y a une phrase du discours d'investiture de John Kennedy que j'aime à me rappeler. Il disait « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Alors passez de bonnes fêtes de fin d'année, prenez plein de bonnes résolutions pour 2017, construisez plein de beaux projets et gardez cette belle envie d'entreprendre.
Oui Jean-Marc, ce troisième épisode d'Envie d'entreprendre sera donc consacré à la truffe, ses marchés, officiels et souterrains, mais aussi à son incomparable valeur gastronomique. Avec le président des trufficulteurs du Vaucluse, ainsi que leur avocate, mais aussi avec un négociant renommé, deux chefs réputés et une étonnante nouvelle trufficultrice, nous allons faire un tour d'horizon de la trufficulture d'aujourd'hui. Mais d'abord, quelques brèves, en commençant par quelque chose de très éloigné de notre sujet du jour. Puisque le 15 janvier prochain, l'unité 2 de la centrale du Tricastin redémarrera suite au feu vert donné par l'autorité de sûreté du nucléaire. Les unités 1, 3 et 4 ont d'ores et déjà redémarré. L'unité 2, elle, passe d'abord par une opération de contrôle qui a démarré le 23 décembre. Le gendarme du nucléaire avait demandé la mise en arrêt des 4 unités de la centrale drômoise, entre autres, afin de faire procéder à des contrôles sur les fonds primaires des générateurs de vapeur, sur lesquels ont été repérées des concentrations de carbone, notamment sur des pièces fabriquées par Creusot Forge et le japonais JCFC. Un défaut qui pourrait, d'après la SN, limiter la résistance de ces cuves lors de chocs thermiques. Pour autant, le démantèlement de la centrale Georges Besse 1 reste d'actualité. Même si l'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable vient de rendre un rapport exprimant ses doutes sur un certain nombre de points du plan de démantèlement proposé par Areva. Un plan qui doit s'étaler sur 30 ans et coûtera pas moins d'1,4 milliard d'euros. L'autorité environnementale s'inquiète notamment du traitement des déchets métalliques de la centrale et de ses éventuels impacts sur l'environnement. Il ne s'agirait en effet pas que ces 150 000 tonnes de ferraille ayant voisiné la radioactivité soient en effet recyclées en casserole.
Et moi je vous parlais dans mon édito des entrepreneurs qui réussissent dans notre belle région. L'un d'eux est bien récompensé en cette fin d'année 2016. Il s'agit de Philippe Millon. Il dirige l'entreprise Everest Isolation installée à Orange. Il a reçu début décembre à Paris le prix Stars et Métiers dans la catégorie Management des ressources humaines. Ce prix national est décerné sous l'égide nationale des chambres des métiers. Et quelques jours plus tard, il a été élu manager de l'année par le club de l'économie du groupe La Provence. Quelques infos sur cette entreprise. Lorsqu'il crée Everest Isolation en 99, en revenant du Népal, Philippe Millon mise sur la performance thermique du bâti, marché encore balbutiant à l'époque. 15 ans plus tard, son entreprise est devenue la référence dans toute la région dans l'isolation soufflée des combles. Depuis sa création, et pour faire face à la croissance rapide de son activité, il avait recruté, mais il s'est trouvé vite confronté à un enjeu de management, le turnover dans son entreprise, notamment en raison, et il le dit lui-même, de sa trop grande autorité. Virage en 2013, il met alors en place un comité d'entreprise, crée une salle dédiée aux loisirs, propose un arbre de Noël à ses salariés, des cours de yoga, et depuis ce temps, un cercle vertueux s'est créé, avec ses récompenses qu'il reçoit cette année et qu'il partage avec ses employés. Vous pouvez d'ailleurs retrouver un portrait complet de Philippe Millon sur notre site jourhuit.com.
C'est la société montpelliéraine La Compagnie du Vent qui a été sélectionnée par la mairie de La Roque-sur-Perne pour l'aménagement d'une centrale solaire photovoltaïque. Celle-ci sera installée au fond de l'ancienne carrière de gypse Signat, ex-Lafarge, achetée par la commune en 2014. L'idée du projet étant autant de produire de l'énergie verte que de préserver cet espace de 100 hectares contre le risque incendie et contre l'envahissement par les engins motorisés à 2 ou 4 roues qui ont déjà fait de nombreux dégâts dans d'autres sites naturels comme l'ancienne carrière d'ocre de Bédouin.
Unchain my heart.
Unchain my heart.
Oh baby, let me go.
Unchain my heart.
Unchain my heart.
Unchain my heart.
'Cause you don't love me no more.
Unchain my heart.
When I call you on the telephone, some men tell me that you're not at home. Unchain my heart. Baby, set me free. I'm under your spell.
I'm under your spell.
Like a man in a trance.
Like a man in a trance.
Oh, you know darn well.
And I know darn well.
That I don't stand a chance. Unchain my heart.
Unchain my heart.
Let me go my way.
Unchain my heart.
Unchain my heart.
Unchain my heart.
You worry me night and day. You know you got my heart in misery. You don't care a bag of beans for me. Unchain my heart, baby, set me free. I'm under your spell.
I'm under your spell.
Like a man in a trance.
Like a man in a trance.
Oh, and I know darn well.
And I know darn well.
That I don't stand a chance. Unchain my heart.
Unchain my heart.
Let me go my way.
Unchain my heart.
Unchain my heart.
Unchain my heart.
You worry me night and day. You got my heart in misery. You don't care about me, but you don't change my heart. Baby, set me free. Baby, set me free. Oh, set me free now. Set me free.
Après que Johnny Winters, accompagné par la section cuivre des Blues Brothers, nous ait invité à déchaîner nos cœurs, voici le moment de déchaîner nos papilles. Puisque notre dossier du mois est consacré à la truffe, avec un T majuscule, la Tuber melanosporum. On le sait partout dans le monde, sauf à Paris, la majeure partie de la truffe noire n'est pas produite dans le Périgord, mais dans le Vaucluse et dans ses départements voisins, soit 76% de la production française. Sachant que la France n'est pas le seul polyproducteur en Europe. Il existe également une tradition trufficole en Italie, avec notamment la fameuse truffe blanche d'Alba. Et depuis quelques années, les Espagnols se sont lancés dans le développement de la trufficulture, qui, s'il ne vient pas encore en concurrence avec la production française, est cependant l'objet de toutes les attentions, l'Espagne ayant déjà su démontrer ses capacités dans d'autres productions agricoles. Nous allons donc commencer ce dossier par une rencontre avec Patrice Goavec, président du syndicat des trufficulteurs de Vaucluse, que nous avons interviewé durant la 3e édition de la fête de la truffe d'Apt.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le département de Vaucluse est le premier département producteur de truffes. Voilà, donc on a une très grosse production avec deux marchés très importants qui sont Carpentras et Richeranche. À Richeranche, il y a du volume, mais nous n'avons pas de mercurial qui est édité, alors que chaque vendredi, vous avez une personne qui est dédiée au relevé et qui nous communique chaque vendredi en fin de marché les prix de la truffe. Le syndicat des trufficulteurs existe depuis 1976. Voilà, quand j'ai repris en 2011, que Gilbert Espenon, mon ami Gilbert, m'a laissé, on va dire, la présidence, nous étions à peu près une cinquantaine de membres. Alors d'aujourd'hui, en 2016, nous sommes 180. Alors c'est vrai que la trufficulture ancienne, on va dire, c'était je fais mes petites affaires, je fais mes petites expériences dans mon coin, j'essaie que le voisin ne voit pas ce que je fais, sinon il va produire autant que moi. Alors d'aujourd'hui, c'est terminé, il y a vraiment un échange qui se fait entre les trufficulteurs en disant moi je fais telle et telle manière, Alors, ça ne sera pas forcément adaptable sur le terrain de la personne, mais il y a vraiment un échange. Il y a de la communication maintenant au sein de la trufficulture. La truffe espagnole, c'est vrai que ils ont su déboiser de nombreux hectares sur leur territoire. Ils ont été financés par l'Europe pour pouvoir planter des arbres. Donc, ils ont eu, on va dire, l'intelligence de planter des chênes truffiers. Voilà, et donc après, ces arbres, il fallait absolument les arroser. Donc ils ont obtenu encore des subventions pour pouvoir arroser, faire des forages. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a une production très importante. On ne sait pas mesurer pour l'instant ce qui rentre, parce que certains courtiers, j'ai vu des reportages télé, qui vont directement chercher leurs truffes là-bas. Voilà, donc pour l'instant, on ne sait pas. Tout ce que je peux dire, c'est que début février, nous recevons une délégation d'à peu près 25 Espagnols pour pouvoir justement les aider pour la commercialisation. Voilà. Donc il y a des échanges aussi avec eux. Les deux soucis à chaque fois qui reviennent, ce sont les voleurs à deux pattes et on va dire les voleurs à quatre pattes. Donc en ce qui concerne les voleurs à deux pattes, la gendarmerie et puis on va dire les tribunaux ont fait ce qu'il fallait dernièrement. Voilà, donc il y a des relations qui sont liées avec la gendarmerie pour justement quadriller au maximum et essayer de repérer, on va dire, les voleurs à deux pattes. Et on va dire la problématique des sangliers, ça c'est vu directement avec monsieur le préfet qui est très à l'écoute de la trufficulture vauclusienne et qui, on va dire, fait le nécessaire pour mettre en place un classement nuisible sur, on va dire, 7 communes point noir et d'autres communes avec un certain montant, on va dire, de dégâts. Alors c'est vrai que c'est un sujet que j'ai évoqué avec le commissaire de Carpentras. C'est pas un marché parallèle à Carpentras, ce sont des marchés parallèles, il y a plusieurs. La problématique aussi, c'est que vous avez des courtiers qui achètent avant le marché, ce qui veut dire qu'après vous retrouvez très peu de personnes à l'intérieur du carré. Voilà, donc c'est, on va dire, une petite problématique qu'il va falloir résoudre. Alors, si je suis présent aujourd'hui, d'abord, c'est parce que le président de l'association est membre du conseil d'administration, donc je viens le soutenir. Voilà, et puis c'est bien que des villes fassent des fêtes de la truffe. Alors, c'est vrai que je ne suis pas présent à toutes, parce que je ne peux pas me couper et être présent sur toutes, mais disons que, c'est dans une grande ville comme Apte, c'est intéressant de venir et de promouvoir la fête de la truffe. Oui, je suis en contact actuellement avec deux chercheurs de l'INRA qui seraient prêts à venir sur Carpentras un samedi pour organiser un congrès sur la trufficulture qui s'adresserait à la fois aux trufficulteurs et, on va dire, à l'amateur, à la personne qui voudrait se lancer dans la trufficulture. Voilà, donc c'est un projet, ça va être présenté, je vais le présenter au conseil d'administration en début d'année. Voilà, et donc j'espère que ça sera validé et qu'on profite de faire cette expérience-là, de faire un congrès sur la trufficulture. Ça apportera un plus et ça risque d'être fait sur Carpentras. Voilà. Mais en 2017, et j'ai eu une proposition de Madame le maire d'Apte pour faire quelque chose aussi ici. Donc voilà. Donc vous voyez, il y a des propositions. On cherche vraiment à relancer la trufficulture dans le Vaucluse.
Après Patrice Goavec, président du syndicat des trufficulteurs de Vaucluse, nous avons rencontré une autre interlocutrice essentielle du monde de la truffe, Maître Sandra Bouix. Elle est l'avocate du syndicat des trufficulteurs de Vaucluse. Et durant l'année 2016, elle a remporté pour son client deux belles victoires judiciaires à Avignon et à Carpentras. Elle nous explique pourquoi la judiciarisation des vols de truffes est importante afin de lutter contre ce fléau. en attendant de pouvoir porter plainte contre un autre fléau, les marchés parallèles.
Quelles sont les procédures, les affaires en cours, quelles sont les questions qui sont arrivées devant la justice au sujet des intérêts des trufficulteurs ?
Essentiellement, en fait, vol de truffes. C'est vrai que la profession évolue, essaie de faire en sorte que l'on produise mieux, et qu'on, puisque maintenant on sait comment on peut être plus rentable. Et donc, si on est plus rentable pour nous, les voleurs aussi savent que c'est aussi plus rentable. Donc, il y a de plus en plus de vols de truffes, et on essaie de faire en sorte que ces voleurs soient traduits en justice. Mais c'est difficile, vu les moyens, vu le contexte aussi de la truffière en elle-même.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer, il y a eu quelques affaires qui ont déjà été jugées, alors sans donner les localisations ou les noms, mais nous dire un peu comment justement les trufficulteurs sont parvenus à mettre l'affaire à la connaissance de la justice?
Oui, alors c'est assez facile maintenant qu'on a des moyens qui sont mis à la disposition des trufficulteurs, et on le dit souvent lors des assemblées générales, il suffit en fait que le trufficulteur puisse équiper une partie de sa truffière en caméra finalement placée dans les arbres, et c'est finalement le seul moyen qui permet finalement après au service enquêteur de pouvoir remonter jusqu'au voleur, parce qu'on ne peut pas avoir un enquêteur qui est placé derrière chaque chaîne truffier, et qu'en même temps les exploitations sont dans des endroits assez isolés, donc à part de constater qu'il y a eu le vol parce qu'il y a eu grattage, ou parce que des fois, alors certains ne sont pas très délicats non plus de voleurs, mais ils font d'énormes trous, ils saccagent carrément les truffières, mais voilà, à part de tomber dessus, et même si on tombe dessus, on ne sait pas qui c'est. Donc maintenant, on incite de plus en plus de trufficulteurs à se regrouper pour faire des achats, mais peut-être même moins chers, de ces équipements. Et avec ces équipements, après, on arrive à donner des éléments qui permettent de remonter jusqu'au voleur. Et donc, une fois qu'on a identifié le voleur, il est traduit, il est déféré, hein, devant le tribunal correctionnel. Dans le Vaucluse, on a déjà eu deux cas récemment, au tribunal à Carpentras, et un devant aussi le tribunal correctionnel à Avignon. Ça s'est soldé à chaque fois avec une reconnaissance de la culpabilité de la personne et des sanctions qui sont quand même intéressantes, parce qu'il s'agit malgré tout d'un vol simple à la base.
La peine maximale encourue pour un vol de truffes, elle est de combien ?
Alors effectivement, le vol simple est puni de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. C'est effectivement la peine à tirer maximum. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a les circonstances aggravantes, et en l'occurrence, on est quasiment à chaque fois sur du vol toujours en réunion, qui est donc une des circonstances aggravantes du vol et qui permet en fait à ce que la peine, le quantum de la peine, soit augmenté en fonction aussi de la personnalité de l'auteur de l'infraction, mais en fonction aussi des circonstances de ce vol.
Donc les deux jugements qui ont été prononcés, les sanctions ont été de combien ?
Alors dans un des deux, il y avait deux auteurs qui ont été sanctionnés de manière un peu différente, parce que un avait on va dire déjà un palmarès assez fourni au niveau de son casier judiciaire, donc lui a été sanctionné de 8 mois d'emprisonnement ferme. Le second, qui était beaucoup moins connu des services de police et de gendarmerie, a été sanctionné, lui, à hauteur de 4 mois. Après, sur l'autre affaire qui est passée à Avignon récemment, on a eu une sanction qui est allée au-delà des réquisitions du procureur. On était effectivement assez contents, pas parce qu'on a eu une grosse peine, mais on est contents qu'on reconnaisse que ce vol simple est quand même pas non plus d'une nature si singulière. Et la personne a été condamnée à 3 mois de prison. Ferme aussi, sachant qu'en plus la personne en question était déjà détenue, donc ce qui fait que ça rallonge sa peine, et on est quasiment, à dire, on était un petit peu presque sûr qu'il allait passer la saison, finalement, cette saison qui a attaqué des truffes en prison. Ça nous fait peut-être un voleur de moins.
De ce que me disaient les trufficulteurs et des négociants, ils commencent à avoir l'impression justement que la justice, aussi bien le ministère public que les juges, je veux dire, commencent vraiment à considérer que voler un vélo et voler une truffe, c'est pas la même chose. Est-ce que c'est aussi le sentiment que vous avez, donc ?
Alors, en fait, le préjudice est particulier parce que lorsque l'on va cambrioler une maison et voler la télé, l'appareil photo, on a quelque chose qui est quantifiable avec des factures derrière. Le vol de truffe, la particularité, c'est qu'on creuse finalement au pied des arbres et on récolte ce qu'on a trouvé. Et on ne sait pas vraiment la quantité qui est dérobée. Donc il a fallu faire admettre finalement au système judiciaire, hein, à la justice et aux magistrats, que certaines personnes peuvent maintenant vivre de la production de leur truffière et que c'est quand même un manque à gagner et un préjudice pour toute la famille. Donc ce préjudice-là est plus pris en considération maintenant. D'ailleurs, lors de la dernière affaire sur Avignon, on avait simplement précisé que la truffière produisait tant par semaine avant le vol. Et donc, on avait fait une moyenne et on a été finalement accueillis dans toutes nos demandes. On avait fait ce calcul-là et le juge n'a pas réduit, parce qu'on a été juste dans le préjudice qui semblait être le nôtre.
Ce qui veut dire aussi que ces jugements font forcément jurisprudence et qui vont permettre à des prochaines affaires de pouvoir s'appuyer aussi un peu sur ces sanctions.
Oui, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on en a eu une à Avignon, une à Carpentras. Donc on va de toute façon, si on est amené à être effectivement à nouveau convoqué en tant que victime, et pour le trufficulteur et pour le syndicat aussi, amené à s'appuyer sur ces éléments-là. Quand en plus on a connaissance de la totalité du dossier, on sait un petit peu la personnalité de l'auteur qui a été sanctionné. Donc on peut aussi demander à ce qu'une peine soit le plus juste, mais pour tout le monde. Pour l'auteur des faits, mais également pour les victimes qui subissent quand même des préjudices avec ce qui est commis.
Le deuxième fléau qui peut passer devant la justice, c'est donc le problème des marchés parallèles, notamment sur le marché de Carpentras. Pour l'instant, il n'y a eu aucune affaire qui soit arrivée devant les yeux de la justice.
Non, pas pour le moment. C'est vrai que pour qu'une affaire puisse être présentée devant un magistrat, il faut qu'il y ait des éléments de preuve. Là, avec effectivement les vols de truffes dans les truffières, la preuve, elle se fait par la vidéo, qui est d'ailleurs maintenant aussi envoyée directement sur un téléphone portable ou sur une adresse mail, qui permet aussi de sécuriser cette information-là, parce que maintenant, on a aussi d'autres problèmes sous-jacents avec ces équipements qui peuvent être dégradés s'ils sont trouvés. Mais dans ce cas-là, des marchés parallèles, on n'a pas de preuve de quoi que ce soit. Il n'y a pas de témoin, évidemment. Ça reste quand même un milieu très opaque. Et les gens, ou par peur ou autre, ne dénoncent pas.
S'il y avait des opérations de police ou de gendarmerie qui étaient menées, des gens qui étaient pris en flagrant délit sur des choses de genre, le syndicat pourrait être partie civile ?
Ah oui, il faut effectivement qu'on soit prêt à ce moment-là au niveau du syndicat, mais on le saura parce qu'on est en train aussi de présenter ces choses-là. Il faut être prêt à poursuivre parce que si personne ne poursuit, les choses ne sont pas prises en considération. Et donc, c'est comme si rien n'était. Donc, si les services de police et de gendarmerie font l'effort de mettre en place des contrôles ou des opérations, il faut aussi que derrière, la profession soit unanime et puisse porter finalement jusqu'au bout.
Tous les samedis matins, je me lève en chantant. J'ai trouvé le moyen de gagner de l'argent. Quand je fais mon marché, je fais des économies. En client abusé, j'ai mis fin au gâchis. Dans les supermarchés, je fais mes provisions. Je cours dans les allées comme un vrai papillon. En poussant mon caddie de rayon en rayon, je surveille les prix, attention à l'addiction. Qu'est-ce que c'est que ce produit nouveau dont ils ont parlé à la radio? Le prix est vraiment intéressant. J'en prends deux, ça servira sûrement. Dans le supermarché, on fait nos provisions. On court dans les allées comme de vrais papillons. En poussant nos caddies de rayon en rayon, on surveille les prix, attention, l'addition.
Un monsieur m'aborde gentiment. Bien qu'il ait l'air sérieux, il est entreprenant.
Je lui dis non, monsieur. c'est différent.
Mes textiles, lingerie fine, coton, changer de baril, ça il n'en est pas question.
Je l'ai essayé et maintenant, c'est bien la meilleure.
C'est elle qui me fait le linge plus blanc, même celui de couleur.
Paquet de café a changé de couleur. Vite, il faut l'essayer. Il doit être meilleur. Et bien qu'un peu plus cher, il est en promotion. C'est une bonne affaire. C'est juste son location.
Dans les supermarchés, on fait nos provisions. On peut dans les allées comme de vrais papillons.
Vous l'aurez compris en écoutant ce titre du groupe Odeur, ce n'est pas nécessairement dans les supermarchés que vous trouverez la meilleure truffe. Par contre, vous les trouverez sans difficulté entre Loriol et Monteux en allant visiter l'entreprise d'Éric Jomard, tout simplement appelée la truffe du Ventoux. Fils de trufficulteur, Éric Jomard a créé petit à petit une véritable institution du diamant noir où on peut aussi bien découvrir les secrets du cavage, acheter truffes fraîches ou en conserve, mais aussi un certain nombre de produits dérivés fabriqués maison. Avec ses fils Franck, formé dans le monde hôtelier, et Alexis, ingénieur agroalimentaire, Éric Jomard continue de développer cette belle entreprise. Il évoque avec nous sa société, mais aussi son activité de négoce.
La Truffe du Ventoux donc, est une société familiale que j'ai créée donc, en 1998. Les plantations datent sont plus vieilles, puisque j'ai commencé à planter en 1979. De façon à voir si la production, les premiers plants inséminés que vous voyez là, étaient pleins de succès. Donc on a eu quelques bons résultats, donc ce qui m'a permis de produire et de vendre au début sur les marchés. Par la suite, donc la production n'était pas suffisante, j'ai monté une affaire de négoce qui s'appelle maintenant la truffe du Ventoux. Sinon, à l'origine, donc c'est une exploitation familiale agricole. Avec mon père, on a planté les premiers truffiers, donc comme je vous disais, en 79. Donc là-dessus, cette affaire de négoce a prospéré. Et donc, on est arrivé en 2008-2009. Donc, un de mes fils a voulu nous rejoindre, donc ce qui permet de faire un peu plus de volume et de travailler un peu plus. Et mon autre fils nous a rejoint il y a 3 ans. Donc voilà, c'est vraiment une affaire familiale que je transmets avec plaisir. Donc, le fait qu'il ait des enfants, on a voulu jouer la carte, si vous voulez, de l'agrotourisme, c'est-à-dire organiser des journées découvertes, qu'on appelle des journées découvertes chez nous, où les gens, nous les emmenons truffer avec les chiens. On fait une petite conférence sur la truffe pour leur expliquer ce que c'est comme produit. Vous savez, un peu d'historique. Et après, nous allons truffer avec les chiens pendant 1 heure. Et puis après, on leur fait déguster la truffe dans une ancienne écurie aménagée dans la ferme à côté. Donc, c'est très convivial et ça plaît beaucoup. Donc, ça a pris du succès. Et derrière, donc, voyant ce succès, on a dit pourquoi pas faire dormir les gens puisque j'avais la ferme. Donc, on a aménagé la ferme, ce qui nous a permis d'être en chambre d'hôte. Et de journée, c'est une journée découverte. Les gens peuvent manger, dormir et passer un bon moment parce qu'ils arrivent en général à 11h et ça finit à 4h. Donc, après de l'après-midi. Donc, s'ils veulent dormir, on les accueille bien volontiers. Donc c'est vraiment une activité qui nous prend tous les week-ends. On a du monde puisque c'est à la fois ludique avec les chiens, culturel dans la mesure où on apprend pas mal de choses sur la truffe, et gastronomique parce qu'on déguste des bons produits. La partie négoce, c'est important, c'est quand même le nerf de la guerre, dans la mesure où ma production, bien sûr, n'est pas suffisante pour alimenter ma clientèle, qui n'a cessé de grossir. Donc, ce qui fait que j'ai des apports directs et des achats sur les marchés de gros pour avoir de la marchandise. Donc, ça nous fait traiter quand même des volumes de truffes. C'est important, surtout en période de fête, quoi, voilà. Mais sinon, ça reste une entité familiale. On ne veut pas se développer d'une façon trop rapide et désordonnée. Donc, il faut maîtriser un peu ce qu'on sait faire. On associe à la fois clientèle particulière et clientèle professionnelle. Donc, la clientèle professionnelle, que ce sont bien sûr les restaurants, les épiceries fines, les traiteurs. Et clientèle particulière, donc ce sont tous les privés qui veulent se faire plaisir. Et puis comme on accueille des groupes, ben les gens, après avoir passé une journée avec nous, ben ils ont envie d'acheter, se faire un peu plaisir et d'acheter d'autres trucs. Donc on joue sur les deux tableaux et on expédie en France et à l'étranger, surtout Angleterre, Suisse, Belgique, qui sont nos, nos plus gros clients. La région parisienne essentiellement. Donc. Et il y a un site internet qui est très fonctionnel, qui permet d'acheter les produits que vous voulez. C'est également bon, la truffe fraîche, bien sûr, soit entière, soit en morceaux, soit en brisure, qui sont des, avec des valeurs différentes au point de vue prix, mais la qualité étant la même. Et également des produits dérivés, parce que nous fabriquons des produits dérivés, à savoir des huiles truffées, des vinaigres balsamiques blancs truffés pour... accompagné donc salade, pâtes, etc. Donc terrine truffée, il y a également du beurre truffé qui marche très bien pour des toasts, un apéritif ou avec des pâtes fraîches ou avec des pommes de terre au four. Toute la gamme de conserve, donc la truffe entière et du jus de truffe également. Donc voilà, on a une panoplie de produits qui sert, que l'on sert beaucoup aux, aux épiceries fines. On fait tout à l'atelier, donc dans la mesure de nos possibilités, parce qu'on n'est pas habilité à tout faire, donc on ne peut pas travailler des plats cuisinés ici, voilà, donc dans l'atelier. Enfin, on fait tous les produits, comme c'est un végétal, c'est un produit qui se travaille facilement. Il y a pas, il y a beaucoup moins de contraintes que des matières animales, où il y a des, une réglementation beaucoup. Voilà, nous s'appelons la truffe du Ventoux, donc on essaye au maximum de travailler avec des gens d'ici. Donc j'ai des apports donc, de gens de toute la région des contreforts du Ventoux, puisque le Ventoux c'est, la, c'est vraiment la, la montagne bénie des dieux pour la truffe. Donc les gens viennent d'ici, puis je tiens, mais j'ai même un point d'honneur à avoir cette origine-là. Et puis, je ne vous cache pas que des fois, bon, on n'a pas tout ce qu'on veut, donc il y a quand même un marché à Richerange également, où, qui n'est pas loin, hein, c'est le Nord Vaucluse, hein, on reste toujours dans la truffe de Vaucluse, où on peut acheter des truffes, puisqu'il y a un marché de gros important qui permet de s'alimenter.
Alors, après avoir évoqué la production de truffes, les problèmes liés au vol et au marché parallèle, ainsi que le négoce de la truffe avec Eric Jomard que nous venons d'entendre, le business de la truffe dans le Vaucluse est aussi une affaire de gastronomie. Et nous avons commencé par demander au traiteur Christian Brunet, dont la société est intimement liée depuis 30 ans au monde de la truffe, comment il l'utilisait dans les buffets et réceptions qu'il organise.
Ben, l'entreprise Brunet Frères, c'est une entreprise qui existe depuis 1965 par, par le biais de nos parents qui nous ont, on va dire, transmis... et l'entreprise et le goût de, et le goût de, on va dire, de restaurer les gens et de faire plaisir aux, aux autres. Donc voilà. Donc elle a, une, elle, a, elle a 50 ans d'expérience et ça fait une vingtaine d'années que je travaille auprès de, au sein de l'entreprise. Et je travaille en, en binôme avec mon frère Alex, qui lui a toujours a fait toute sa carrière dans l'entreprise familiale. Donc voilà, on est bien complémentaires. Moi je m'occupe des fourneaux et lui il s'occupe de tout ce qui est logistique et administratif. Alors un traiteur, ça, ça, on peut, on va dire, évoluer dans tous les styles de restauration qui sont souhaitables, c'est-à-dire on peut faire de la livraison de plateaux repas ou de cocktails, on peut faire des repas d'entreprise, des repas d'association, des repas de mariage et des repas de gala. Donc on va dire que le panel, on peut être, on peut se livrer du simple plateau repas ou plateau pique-nique, jusqu'aux, jusqu'aux, on va dire, aux réceptions les plus raffinées, en y intégrant ben, les beaux produits de nos régions, l'agneau, les poitres de Sceaux, tous les beaux produits de Camargue. Donc voilà, voilà. Et en annexe de notre activité traiteur, on a un restaurant qui est ouvert tous les midis, du lundi au vendredi, dans la zone des Escampades à Monteux, à côté de la double voie, juste à côté de la. Du grand rond-point dit le rond-point de Rossi. Alors déjà, la truffe et la maison Brunet Frères, ce sont une très très longue histoire, étant donné que nos grands-parents paternels sont de Riche-Orange, donc qui est quand même le plus grand ou l'un des plus importants marchés aux truffes du secteur. Donc c'est plus professionnel à Riche-Orange et plus, on va dire, pour les particuliers sur Carpentras. Mais voilà, donc déjà cette racine-là, on a une racine dans l'enclave des Papes et ça fait plus de 30 ans qu'on œuvre auprès de la fameuse messe à la truffe qui est suivie d'un repas, on va dire, très traditionnel. Donc déjà, voilà, toute ma jeunesse, les odeurs et les flaveurs de truffe ont été présentes. Donc après, la truffe, c'est un petit bijou précieux et tout ce qui est précieux est fragile. Donc la saveur et le goût de la truffe est assez sensible à la chaleur. Donc son ennemi, on va dire, qui est le plus détestable au niveau de la saveur, c'est, voilà, on va minimiser déjà la longueur en cuisson, on va dire, pour préserver les arômes de la truffe. Donc après, nous, on la travaille, on fait des repas jusqu'à 300 personnes avec des omelettes aux truffes. On les fait pas à l'avance, on les fait au moment. Et donc ça, c'est la partie, on va dire, omelette aux truffes. Le principe, c'est une cuisson très rapide, assez instantanée, qui ne permet pas à la chaleur de dégrader toutes les saveurs de la truffe. Après, tout ce qui rentre dans une cuisine, on va dire, un peu plus élaborée, la truffe s'utilise un peu comme le parfum. On parfume quasiment au dernier moment. C'est-à-dire, souvent, la truffe, moi, je préfère l'utiliser et l'infuser dans une sauce 5 minutes avant de l'envoyer que de l'insérer dans une farce qui va cuire et qui va perdre une grande partie des saveurs de ce beau produit. Donc, voilà. Donc on a quand même une réflexion en amont sur qu'est-ce qu'on veut donner au client, quelle sensation on veut qu'il ressente. Donc voilà, les plats simples comme les omelettes, ça se fait instantanément, donc on fait macérer nos œufs avec les truffes. Maintenant, quand c'est sur un plat plus élaboré, généralement on intègre la truffe uniquement dans la sauce pour un plat chaud, et puis après infuser une huile d'olive, ça, c'est très bien. Il ne faut pas une huile d'olive trop verte, il faut une huile d'olive un peu mûre, ce qu'on appelle un fruité noir ou un fruité mûr, ça c'est important. Et puis après, ça peut être sur un tartare de Saint-Jacques, un carpaccio, voilà, ça peut être intégré avec les œufs. Voilà. Après, ce qui fonctionne bien, c'est les plats les plus simples, parce que la star.
Il faut laisser couler. Et puis... Un après-midi d'automne, on avait trouvé un moyen de locomotion. Alors on est parti à la cambrousse. Les champs étaient humides et suffisamment acides. C'était le bon moment pour aller cueillir des champignons. Mangez-moi. C'est le chant des oiseaux qui survit, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception. Il pleuvait beaucoup ce jour-là.
Heureusement, on avait des capuches
et surtout des pochons solides. Là-bas, les vaches nous regardaient d'un air complice et détendu. Il y avait plus qu'à s'y mettre pour assurer la cueillette. Mangez-moi. C'est le chant du silo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception. Est-ce que c'est un bon? Mais non, c'est pas un bon.
tu marches comme un canard, mais c'est pour mieux le voir. Oh putain, j'ai mal au dos, il faudrait un détecteur. Tiens, voilà un écho de pétard, ça doit être un très bon chant. Ou alors y'en a qui sont passés déjà, et sûrement qu'ils ont tout raflé. Voilà, c'est sûr, il est connu. Putain, franchement, comment veux-tu? Maintenant, il est trop tard. On est bien avancé, on a les pieds tout mouillés. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi.
Plutôt que de m'écraser, pourquoi ne pas me manger?
Un après-midi d'automne, on avait trouvé un moyen de locomotion. Alors on est parti à la cambrousse. Les champs étaient humides et suffisamment acides. C'était le bon moment pour aller cueillir les champs remplis. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. C'est le chant du silo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception. Car à la descente, car à la descente, car à la descente,
Si les champignons évoqués par Billy the Kick seraient plutôt du genre hallucinogène, la tuber mélanosporum, elle, est plutôt hallucinante sur le plan gastronomique. Pour en parler, nous avons interviewé le grand chef Michel Philibert, membre de la prestigieuse confrérie des maîtres cuisiniers de France, aux côtés de ses complices et confrères Christian Etienne et Michel Messonnier. Il propose chaque année depuis 30 ans un festival de la truffe, aujourd'hui dans son beau restaurant gastronomique du Barou, le Gajuléa. La truffe, Michel Philibert en parle tout simplement avec amour.
Enfin, toute ma famille était au milieu des truffes, moi tout petit aussi. Et à l'époque, j'avais un restaurant sur le Pleurin en Monteux, en 87, je connaissais très bien Philippe Avon, qui était journaliste, qui était un amoureux du terroir, un amoureux de la vieille voiture, avec Trintignant, il faisait le Mont Ventoux. Et un jour, avec le Périgord, il décide de faire la première route de la truffe. Et donc, il y avait trois établissements, du Périgord à Nîmes à Carpentras, où on recevait toutes ces personnes-là, et donc on a fait un plat, on devait faire un plat, on était noté ce plat. Et le meilleur plat qu'ils ont trouvé, c'est le mien, donc j'ai eu cette chance-là. Donc en 87, ça fait 30 ans. 30 ans cet hiver que j'ai fait ce plat, qui était c'était un raviol de céleri rave, riz de veau et truffe, voilà, que j'ai refait par la suite d'ailleurs, et qui m'a fait gagner ce trophée qui est là devant moi, la première route de la truffe en 87. Et de ce moment-là, j'ai créé les galas de la truffe. Les premières années, on faisait 2 galas. Et puis on est maintenant, depuis des années, on fait 5 galas, 5 menus différents, sur 5 thèmes différents. Ça peut être le veau et la truffe, ça peut être la poularde et la truffe, la mer et la truffe, tous les poissons. J'ai eu fait tous les légumes et truffes, Rossini, les tourneaux Rossini, les lièvres à la royale. Voilà, tout ça, à partir de mi-janvier à fin février, on travaille la truffe, parce que c'est cette période-là qui est la meilleure. Voilà. Moi, avant, la truffe, je ne la travaille pas. Moi, décembre, je ne la travaille pas. C'est la première, elle démarre. Elle n'est pas mûre, donc j'ai regardé un peu tous les courtiers en truffe, tout ce qu'ils faisaient avant, et travailler la truffe de janvier, de février, début mars. Et là, c'est le moment ou jamais de faire la truffe, parce que c'est là où on donne le plus de saveur, le plus de goût, et tout ça, cette magie-là, on l'a à cette période-là. Voilà, ça c'est le plus important pour moi, et je n'utilise aucun arôme, aucune huile qui donne ce goût de gaz, parce que je suis un perfectionniste dans mon métier, et c'est surtout, moi je veux vraiment le goût de la truffe, et on mange de la truffe. Voilà. Alors la truffe, c'est quelque chose qui s'adapte à autre chose. Vous avez des racines, tout ce qui est racine, vous émettez, vous avez tout ce qui est iode, la mer, vous émettez un peu de truffe dedans, ça vous donne un goût différent. Tout ça parce que la truffe, c'est une, je dis toujours, la truffe, c'est une femme. C'est une femme, une belle femme. une femme que vous allez frotter délicatement pour enlever la terre, que vous allez pas trop cuire, donc caresser pour pas trop la cuire. Faut pas la brusquer, la truffe, et comme de femme d'ailleurs. Et en même temps, si vous voulez qu'elle vous donne le maximum, eh bien, il ne faut pas la cuire beaucoup, il ne faut pas la brusquer. Voilà, tout ça est très important dans la truffe. Voilà, donc vous la mettez juste en arôme, juste en même pas en cuisson. Moi, je ne cuis pas la truffe. Je la mets dans quelque chose de bouillant, j'arrête de faire bouillir. Ce qui fait qu'elle va sortir son goût et elle va garder toujours ce croquant. Et ce croquant-là, c'est le merveilleux avec le goût et le parfum. Voilà. Mais la truffe, il ne faut pas la cuire. Après, il ne faut pas la manger glacée parce que le froid va casser son goût. Donc il faut lui trouver une température d'ambiance, et quand on fait un ragoût de truffe, hein, je parle d'un ragoût de truffe, ça dure deux jours. C'est des réductions de viande, de bœuf, avec la truffe mise dedans, des morceaux, dans du bouillon, mais qui est mis de côté, couvert, refroidi, et ça en fait 10 fois, et refait 10 fois. Et ça, à force, la truffe, elle a toujours son petit croquant, elle va donner son jus, son bon goût de la truffe. Et là, la magie est liée. Voilà, la truffe, il faut la regarder comme la plus belle femme du monde. Donc les galas de la truffe vont démarrer le 12, 13, 14 janvier avec le pot-au-feu du 3e millénaire, qui est une recette que je pratique depuis quelques années, que je n'ai pas fait l'année dernière d'ailleurs, qu'on m'a réclamé, pour ça que j'ai refait cette année. Et on s'en démarre, et après tous les week-ends sont différents. Il va y avoir donc, là c'est le pot-au-feu, après il y a le Rossini, après il y a la mer. La mer et la truffe, tout ça jusqu'à mi-février, fin février, en espérant bien sûr qu'il y ait de la truffe, sachant que cette année c'est encore une année difficile et que heureusement qu'il y a des gens qui arrosent les truffières et qu'on arrive quand même un petit peu de truffe dans la région. Il faut savoir que vous avez la truffe Melanosporum d'Italie, Melanosporum d'Espagne, qui est aussi bonne, qui est très, très bien, qui est parfumée et qui est la même que la nôtre. Voilà. Donc ça, on ne travaille pas la chinoise, on ne travaille pas la truffe blanche. Je ne la travaille pas. Par contre, il ne faut pas négliger non plus la brumale, qui est une truffe qui est actuelle et qui est l'hiver aussi, surtout sur des pâtés, sur des valeurs royales. La brumale est aussi, peut être une très bonne truffe sur certains plats, mais n'a pas l'art, la beauté de la même chose.
Moi, j'ai qu'une seule chose à dire. Michel Philibert nous donne bien envie d'aller goûter ses plats dans le beau village du Barou. Pour finir, on vous propose une interview d'une femme bien connue dans le monde des entreprises du comptat, puisqu'elle est présidente de l'association Carpensud. Mais elle a aussi d'autres cordes à son arc, comme on dit, et notamment celle de productrice de truffes. Astrid Jourdan nous parle de cette transmission familiale et de cette activité qui la passionne.
Je suis née à Carpentras, j'y ai fait mes études jusqu'au bac et ensuite je suis partie à Paris pendant 20 ans. J'ai travaillé dans la publicité et puis j'ai monté une entreprise de design mobilier que j'ai revendue en 2003 et je suis revenue vivre à Carpentras en 2004. Et en 2004, j'ai monté mon agence de communication Jourdan Création. Comment je suis arrivée à la production de truffes? Alors tout simplement parce que mes parents avaient des terrains truffiers sur Venasque et que après le décès de mon papa et pendant ma vie à Paris, ces terrains ont un peu végété. Et puis surtout, certaines personnes venaient se servir. Donc je me suis dit qu'il fallait s'en occuper. Je vis principalement à Carpentras, mais je suis souvent en Suisse. Et donc on avait pas mal de demandes là-bas et voilà, et à ce moment-là j'ai décidé de retravailler les terrains et puis de vendre ma production.
Cette vente, vous la faites sur les marchés aux truffes, directement aux particuliers ou aux restaurateurs?
Alors je n'ai pas une production énorme, donc la production de mes terrains est vendue principalement aux restaurateurs en Suisse, puisque sur le marché du Vaucluse, bien, il y a déjà beaucoup de gens qui font de la vente de truffes, donc je ne voyais pas tellement l'intérêt. Et la truffe provençale, la Melanosporum, donc est très appréciée dans les pays européens, notamment en Suisse, en Belgique, en Allemagne. Ils ont une truffe, mais qui a rien à voir avec la nôtre, bien évidemment, qui est moins goûteuse. Donc ils sont très friands de cela. Et j'ai une carte pro pour le marché aux truffes de Carpentras, sur lequel je me rends quand ma production n'est pas assez suffisante.
Et en dehors de la vente de truffes ou de l'achat de truffes, vous faites de la transformation ou des produits dérivés?
Oui, alors mon entreprise qui s'appelle Authentique Truffe n'a que 3 ans. Et donc depuis l'année dernière, je fais des produits dérivés qui sont du sel de truffe, de l'huile à la truffe, des conserves de truffe principalement. Et je prépare un livre aussi de recettes de truffe.
Astrid Jourdan, vous êtes donc chef d'entreprise,
à la fois donc de votre entreprise de communication et de votre production de truffes. Vous êtes également présidente de Carpensud, l'association d'entrepreneurs bien connue sur Carpentras. Comment arrivez-vous à concilier tous ces domaines d'activité?
Alors, c'est vrai que ça fait beaucoup. À l'association Carpensud que je préside depuis bientôt 4 ans, je suis bien entourée d'un conseil d'administration solide et efficace. Et puis, nous avons une animatrice, Elisabeth Gasnot, qui est vraiment là pour faire tourner l'association. Donc, tout se passe très bien au niveau de Carpensud. L'agence de communication, bien évidemment, c'est mon activité principale. Et tout ce qui est truffe, c'est en développement, voilà, pour l'instant. Ensuite, il faut pas oublier que c'est un travail saisonnier qui commence au mois de novembre jusqu'au mois de mars. Après, il y a la truffe d'été, mais qui demande moins d'activité. Les restaurateurs l'achètent pas tellement, en tout cas pour l'instant en Suisse, ils la connaissent pas, donc je suis en train de leur faire découvrir. Mais la principale activité, c'est plutôt de novembre à mars.
Vous nous avez dit que vous êtes en train de créer, de réaliser un livre de recettes sur la truffe noire. Y aura-t-il des recettes inconnues?
Je sais pas s'il y aura des recettes inconnues. En tout cas, le livre s'appelle Recettes créatives, donc j'ai essayé d'apporter une petite touche créative. Il y aura 14 recettes pour l'instant, c'est le premier tome, donc vous me direz s'il y a des recettes que vous ne connaissez pas, mais en tout cas j'ai essayé de le faire pour le mieux et surtout que ça soit facile à réaliser pour des gens qui connaissent pas forcément la truffe, et je pense notamment au marché suisse qui, voilà, ils me demandent ce livre et ils savent pas très bien la cuisiner. C'est pas le cas ici en Provence parce que les gens ont l'habitude de cuisiner la truffe, que ce soit en brouillade ou en omelette ou même sur des toasts, mais dans certains pays ils ne connaissent pas du tout.
Et sa publication est prévue à quelle période?
Je suis un peu en retard, il devrait déjà être sorti, mais je pense que ça sera là pour début janvier.
Ok, très bien, j'espère qu'on va se régaler.
Pierre, avec toutes ces rencontres, nous avons parcouru tous les aspects des marchés de la truffe. Et je pense que beaucoup de nos auditeurs ont aussi découvert des choses inédites et inconnues pour eux. Un tout autre sujet maintenant, la chronique comptable de Ménali Chex du cabinet Argonne. Elle aborde ce mois-ci les différents modes de financement possibles pour les entreprises. On l'écoute.
Le financement d'entreprise est un enjeu majeur pour le chef d'entreprise. Il doit être dissocié si on est en phase de création ou si on est en phase d'investissement. Habituellement, ça va dépendre des banques et des projets, mais on va demander un investissement du chef d'entreprise à hauteur de 15-30% du projet, ce qui représente des sommes relativement importantes. Donc il peut, lui, détenir les fonds en propre et les apporter à l'entreprise. S'il ne les a pas, il va falloir qu'il trouve une solution alternative. Donc la première des solutions, ce serait d'aller voir dans le cercle familial. Ça peut être un prêt de personne à personne que le chef d'entreprise va réinvestir dans sa société, ou un prêt directement à la société sous forme d'association très minoritaire du cercle familial, et puis d'apport en compte courant derrière qui sera remboursé au fur et à mesure des capacités de l'entreprise. On a une deuxième solution alternative, c'est de faire appel à la générosité publique. Donc on peut passer par des plateformes de financement participatif que l'on appelle communément crowdfunding. Depuis 2014, elle est régie par une ordonnance, donc beaucoup plus encadrée. Ça peut revêtir deux formes, soit une forme de prêt d'argent, soit une forme de prêt avec contrepartie en nature. Avec les contreparties en prêt, tout simplement, le créateur monte un projet, le dépose sur la plateforme, le soumet aux financeurs et les financeurs investissent une partie de leur épargne dans ce projet. Le principal inconvénient de ce mode de financement, c'est le coût, puisqu'on est régulièrement entre 8 et 10% de commission, entre les commissions prises par la plateforme pour la gestion du dossier et le financement qui est reversé aux investisseurs. Donc il existe plusieurs plateformes, beaucoup de plateformes, j'en ai sélectionné 3. La plateforme KissKissBankBank, qui est l'une des plus connues et des premières plateformes mises en place, qui est éligible aux créateurs d'entreprises, ce qui se fait relativement rare. On a ensuite la plateforme Lendopolis, qui a été mise en place par l'Ordre des experts comptables en partenariat avec le créateur de KissKissBankBank, qui n'est éligible que pour les sociétés qui ont déjà 2 ans d'existence. Il y a également une troisième plateforme qui fonctionne plutôt bien, qui s'appelle Unilend et qui est ouverte pour les sociétés qui ont 3 ans d'exercice à peu près sous les mêmes conditions. Donc ensuite, quand on a fait ce tour-là, on a recours au financement bancaire ou au financement d'État. Je vais commencer par le financement d'État. Sur Carpentras, il y a une plateforme qui s'appelle Initiative Ventoux et qui octroie des prêts d'honneur aux créateurs d'entreprises. ou des pré-croissances aux sociétés qui ont déjà plus d'une année d'existence. Donc pour les pré-créations, en moyenne, ils vont prêter 6 400 € à chaque projet financé sur 3 ans à taux zéro et sans garantie. Et on se rend compte généralement que l'effet de levier est de 7, c'est-à-dire que pour un prêt d'initiative Ventoux, la banque va suivre à hauteur de 7 fois le prêt d'initiative Ventoux. Donc ça permet de lever des fonds. Le but d'initiative, c'est de soutenir l'initiative de la création et la création d'emplois. La création d'emplois, ça ne veut pas forcément dire ouvrir une structure qui va embaucher 15 personnes. Un demandeur d'emploi qui crée une entreprise, c'est déjà la création d'un emploi. Donc ça rentre tout à fait dans le cadre. C'est aussi très utile aux personnes qui ne peuvent pas avoir accès à l'emprunt bancaire pour des questions de surendettement, pour des questions de longue maladie ou de maladie grave qui leur permet plus d'être assurés et où du coup les banques ferment complètement les portes. Dans ces cas-là, et s'il n'y a pas besoin de fonds très importants, l'initiative Ventoux est aussi là pour soutenir ces projets particuliers. Et en dernier lieu, bien sûr, l'emprunt bancaire. J'encourage les créateurs à faire le tour de plusieurs banques, de comparer les conditions de financement nécessairement, les conditions de garantie qui sont demandées, mais aussi les conditions de gestion de compte derrière, parce que c'est pas tout d'avoir un taux très attractif si pendant 10 ans, il faut payer des commissions qui va vous coûter beaucoup plus cher que l'emprunt de départ.
Et voilà, nous voici arrivés à la fin de cette troisième épisode d'Envie d'entreprendre. Nous vous rappelons que vous pourrez retrouver sur jour8.com l'ensemble des interviews que vous avez pu entendre en version vidéo, avec un sacré bonus, l'explication par Christian Brunet et en images de la bonne manière de réussir son omelette aux truffes, y compris le petit coup de main qui permet de la présenter parfaitement dans le plat. Le 24 janvier 2007, nous serons de retour pour l'épisode 4 avec deux questions. Les soldes, comment ça marche et à quoi ça sert ? Bon réveillon du nouvel an et à l'année prochaine.
À l'année prochaine, bonne fête.
Envie d'entreprendre, l'actualité de l'économie locale avec CNews.press.
Impatient, and don't you run, 'cause I want.